Tout de suite le journal avec Cécile Bideau. Bonsoir Cécile.
Bonsoir. Tout de blanc vêtu, le peuple de Biélorussie demande le départ de son président. Après des manifestations sévèrement réprimées par le régime d'Alexandre Loukachenko, ce sont maintenant des chaînes humaines qui se forment pour dénoncer une réélection frauduleuse. On y voit même des policiers qui refusent d'obéir aux ordres et d'intervenir. Israël et les Émirats Arabes Unis normalisent leurs relations. Un accord a été signé sous l'égide des États-Unis qui se vantent d'avoir fait un pas historique vers la paix au Proche-Orient. Nous verrons si c'est vraiment le cas. L'épidémie de Covid-19 accélère la cadence. La carte de France risque de ne plus être si verte que ça dans les heures qui viennent, on vous explique. Dans ce journal, Arnaud Lagardère contraint de publier les comptes de sa holding personnelle, ce qui risque bien d'aider ses concurrents à prendre le contrôle. Et le PSG, qui attend de savoir qui de Leipzig ou de l'Atlético Madrid sera son adversaire en demi-finale de la Ligue des Champions de football. Au téléphone sonne ce soir Éric Delvaux, on parle de souveraineté numérique.
Oui, cette souveraineté numérique, source de guerre économique, guerre froide entre Américains et Chinois. L'Europe et la France en particulier ont-elles les moyens de faire émerger leur propre souveraineté numérique? À quelles conditions et quels sont les enjeux? Eh bien, on voit ça dans une quinzaine de minutes. Vos questions, les auditeurs, c'était au 01 45 24 7000.
La météo de demain, c'est instable au nord, sec, au sud. Prévision à la fin de ce journal.
France Inter.
Mais d'abord, nous vous parlions hier soir de cette infirmière agressée par des jeunes à qui elle demandait de porter un masque. Ce soir, cette femme témoigne. Elle se trouvait dans un bus à Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis. À bord également, deux adolescents de 16 ans qui ne sont pas masqués. Elle leur demande de le faire. Ils l'auraient alors agressée. Tous deux sont actuellement présentés au juge des enfants en vue d'une mise en examen, voire d'un placement en détention provisoire. Lisa, 30 ans, raconte la scène.
Tout simplement, j'étais assise dans le bus quand on a vu ces trois jeunes hommes monter, s'installer autour de poussettes et à parler très fort, à rigoler, à tourner la tête dans tous les sens, sans aucun respect des distances de sécurité et sans port de masque. J'aurais donc dit, les nouveaux, on peut mettre le masque, s'il vous plaît. Je me suis permis d'intervenir sur un ton sympathique, avec un sourire au visage, donc ils ne voyaient pas forcément parce que j'avais un masque et des lunettes, mais enfin, on m'a répondu des insultes. Et des menaces très violentes. Le ton est monté assez rapidement. Je ne me suis pas laissé faire. J'aurais dit que c'était honteux de parler comme ça à quelqu'un. Je demandais le port d'un masque. Un d'eux a mis son visage à 2 centimètres du mien et a été pour me faire peur. De là, j'ai posé ma main sur son torse. Je l'ai éloigné de moi et j'ai pris une gifle de toute sa force qui m'a sonné. On m'a asséné des coups au visage, dans le corps, des coups de pied, des coups de poing, des gifles. Ils m'ont poussé, ils m'ont mis au sol plusieurs fois. J'aimerais vraiment qu'ils comprennent que ce genre d'action, ce genre de comportement, c'est intolérable.
Lisa, infirmière agressée en Seine-Saint-Denis, témoignage recueilli par Delphine Gauthier. Les chiffres confirment les craintes du gouvernement français. L'épidémie de coronavirus s'accélère sérieusement. Et notamment à Paris, où la courbe a pris un virage vers le haut. On a dépassé les 62 cas pour 100 000 habitants. C'est au-dessus du seuil d'alerte. On attend d'un instant à l'autre le bilan hebdomadaire de Santé publique France pour l'ensemble du pays. Mais il n'y aura malheureusement pas de bonnes surprises. Hélène Chevalier, bonsoir.
Bonsoir.
Expliquez-nous comment fonctionnent ces indicateurs qui permettent de suivre l'évolution de l'épidémie de Covid-19.
Eh bien, vous vous souvenez peut-être de cette carte du déconfinement où une grande partie du nord-est de la France était en rouge et le reste en vert. Aujourd'hui, la carte renommée de vigilance est intégralement verte en métropole et orange pour les départements de Guyane et de Mayotte. Elle est basée sur 4 indicateurs. Le REF pour R effectif, combien une personne infectée en contamine d'autres. Le taux de positivité des tests PCR. Le taux d'occupation des lits en réanimation. Et enfin, l'incidence, le nombre de cas pour 100 000 habitants. C'est ce chiffre qui inquiète à Paris et dans une moindre mesure dans les Bouches-du-Rhône. Avoir un indicateur en orange n'a pas forcément de conséquences. C'est la combinaison de plusieurs niveaux alarmants qui peuvent pousser les autorités sanitaires à passer une zone en orange ou en rouge. Un changement de couleur non sans conséquences, une circulation active du virus permet au préfet de prendre des mesures supplémentaires comme la restriction des déplacements, la limitation des visites dans les EHPAD ou la fermeture d'établissements tels que que les bars ou les restaurants.
Et nous détaillerons les dernières données demain dans la matinale de France Inter. Le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, sera l'invité du 6-9 de Laetitia Gaillet. Face à ces indicateurs qui rougissent, le masque gagne de plus en plus de terrain dans l'espace public. En extérieur, il n'y a toujours pas de généralisation. La main est laissée au préfet et au maire quant à une obligation de le porter. Parmi les nouvelles villes qui vont y passer, Bordeaux et Angers samedi. S'il est obligatoire, il doit être gratuit. Cette revendication fait de plus en plus de bruit dans la classe politique et pas seulement à gauche, Frédéric Seyss.
C'est vrai, la gratuité des masques fait des adeptes aussi à droite. Éric Ciotti la réclame, il est député LR des Alpes-Maritimes.
Rembourser les masques aujourd'hui, c'est aller vers plus de prévention et donc, au final, moins de dépenses de santé pour l'assurance maladie. Donc, ce n'est pas une dépense inutile, au contraire, elle sera sanitairement efficace et pertinente et elle sera économiquement aussi rationalisée.
Une position qui n'est pas celle de son parti, les Républicains, réservée sur une telle mesure. En revanche, elle fait l'unanimité dans le reste de l'opposition. Marine Le Pen est pour, les députés socialistes aussi, tout comme la France insoumise qui veut prendre au mot Emmanuel Macron.
Si le président dit que nous sommes en guerre face au virus, il faut que ce soit l'État qui mette les moyens nécessaires pour que nous puissions gagner cette guerre.
Bastien Lachaud, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Alors faut-il offrir des masques à 67 millions de Français ? Ce n'est pas du tout dans les projets du ministère de la Santé que nous avons contacté. Le cabinet d'Olivier Véran préfère se concentrer sur les personnes les plus précaires. 53 millions de masques ont été envoyés fin juillet aux bénéficiaires des minima sociaux. 50 autres millions de masques puisés dans les stocks d'État vont être expédiés à partir du 20 août. Dans une semaine, ils seront distribués par les préfectures auprès des associations et des collectivités locales, là encore en direction des publics les plus modestes.
Merci Frédéric Seyss du service politique de France Inter. À l'étranger, l'Italie continue de renforcer ses mesures de protection pour éviter que l'épidémie ne reparte. Les tests sont désormais obligatoires pour les voyageurs qui arrivent d'Espagne, de Grèce, de Malte et de Croatie. L'île anglo-normande de Jersey impose désormais aux Français qui débarquent de s'isoler au moins 5 jours et de se soumettre à 2 tests PCR.
La Biélorussie va-t-elle connaître sa révolution des roses ?
Si c'est le cas, ce seront des roses blanches. Des chaînes humaines se forment partout dans Minsk. Des femmes, des hommes vêtus de blanc portant des fleurs et des ballons pour contester pacifiquement la réélection jugée frauduleuse du président sortant Alexandre Loukachenko. Depuis plusieurs jours, les manifestations sont sévèrement réprimées par les hommes en noir des forces anti-émeutes. Selon les chiffres officiels, 2 manifestants sont morts et 7000 ont été arrêtés. Écoutez le témoignage d'un officier de police à Minsk. Il refuse d'obéir aux ordres et se range du côté des manifestants. Il a posté cette vidéo il y a quelques heures.
Moi, Golos Ivan Nikolaevitch, je suis employé du ministère de l'Intérieur et inspecteur de police. Collègues, nous avons juré de défendre le peuple biélorusse, mais au lieu de cela, nous défendons les intérêts d'une seule personne qui a pris le pouvoir par la violence et qui n'a pas le courage de mettre un terme à la violence en rendant le pouvoir au peuple. Collègues, je vous appelle à cesser cette violence et à ne pas pointer vos armes sur des citoyens pacifiques et sans défense. Moi, Golos Ivan Nikolaevitch, j'ai prêté serment en 2015, serment de fidélité à la Biélorussie et à son peuple. Je ne quitte pas la police, mais je n'ai pas l'intention d'obéir à des ordres criminels. Madame Svetlana Tikhanovskaya, vous êtes mon président, élu légalement. J'attends vos ordres en défense de la République de Biélorussie et de ses citoyens. Collègues, je vous le demande, soyez aux côtés du peuple.
Cela fait un quart de siècle que l'autoritaire Alexandre Loukachenko dirige la Biélorussie. Pendant la campagne pour l'élection présidentielle, un vent d'espoir, de liberté a soufflé sur le pays avec la montée en puissance de cette opposante inattendue, Svetlana Tikhanovskaya. Depuis le scrutin contesté de dimanche, la rue tente de réussir là où les urnes ont échoué et les Biélorusses sont de plus en plus nombreux à descendre dans la rue. À Moscou, pour France Inter, Léo Vidal.
Situation paradoxale en Biélorussie où le mouvement de protestation semble à la fois prendre de l'ampleur et s'apaiser. S'apaiser parce que les arrestations massives, les fusillades et même les morts qui avaient marqué les 3 premières journées de protestation semblent devoir se calmer. Il y a tout de même eu plusieurs centaines d'arrestations aujourd'hui, mais rien de comparable aux derniers jours, elles se comptaient alors par milliers, mais aussi prendre de l'ampleur parce qu'en revanche, on a assisté au fil de la journée à une mobilisation impressionnante de la société civile biélorusse. C'est par exemple la prix Nobel de littérature et opposante de longue date, Svetlana Alexeyevitch, qui appelle Loukachenko à partir tant qu'il est encore temps. C'est aussi la biathlète, 4 fois médaillée d'or aux Jeux Olympiques, Daria Dombracheva, qui l'appelle à cesser la violence. Et puis ce sont aussi ces grèves qui éclatent dans les usines, dans les hôpitaux. Ces vidéos de policiers, de militaires qui retirent leur uniforme et refusent d'obéir aux ordres. Difficile de juger de l'ampleur du phénomène en l'absence de comptage officiel ou de statistiques fiables. Mais on dirait que le système Loukachenko est en train de se fissurer de toutes parts. L'arrivée du week-end va sans doute amplifier encore le mouvement, et le président biélorusse n'est toujours pas apparu en public depuis dimanche soir. Moscou, Léo Vidal-Giraud, France Inter.
Et le voisin russe dénonce ce soir des pressions venant de l'étranger pour déstabiliser le régime biélorusse. Les États-Unis, qui l'ont négocié, le qualifient de pas décisif vers la paix au Moyen-Orient. Israël et les Émirats arabes unis ont signé aujourd'hui un accord de normalisation de leurs relations. Alors que va entraîner exactement cet accord? Est-il historique, comme le prétendent les Américains? Les réponses à Jérusalem d'Alice Froussard.
Selon les autorités israéliennes, des ambassades seront bientôt ouvertes et des délégations des deux pays doivent se rencontrer, signer des accords bilatéraux concernant le tourisme, la sécurité, les vols directs, la technologie, la culture, la santé, l'environnement, l'énergie, et ce dans les prochaines semaines. Autre point, les Émirats parlent de stopper l'annexion d'une partie de la Cisjordanie. La Maison-Blanche dit seulement la suspendre. Il est donc encore compliqué de savoir ce qu'il va advenir, mais c'était l'une des promesses de campagne du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et c'était prévu dans le projet de paix au Moyen-Orient de Donald Trump révélé en janvier. Les colons israéliens risquent d'être très déçus. Effectivement, d'une certaine manière, on peut parler d'un deal historique, mais dans les faits, les relations entre Israël et les Émirats arabes unis sont déjà normalisées. Les Palestiniens ont réagi de leur côté, notamment Hanan Ashraoui du comité central de l'Organisation de libération de la Palestine, précisant, je cite, que les deux pays ne font que révéler au grand jour leurs relations secrètes. En tout cas, il faudra savoir comment cela se concrétise, car normaliser, ce n'est pas directement établir des relations diplomatiques.
Une semaine après Emmanuel Macron, la ministre des Armées foule à son tour le champ de ruines libanais. Florence Parly est arrivée à Beyrouth. Elle a commencé par aller visiter ce qu'il reste du port, dévasté par l'explosion d'un stock de nitrate d'ammonium le 4 août dernier. La France prête main forte au Liban, désormais sans gouvernement, pour déblayer, réparer, soigner. Plus de 700 militaires français sont ou vont arriver sur place, ainsi que de l'aide alimentaire et du matériel. Le correspondant de France Inter à Beyrouth, Aurélien Collier, a suivi la visite de la ministre des Armées.
Il y a les images qu'on voit à la télé et il y a la réalité à laquelle on est confronté, même quand on est ministre des Armées.
Il est très difficile de trouver les mots. C'est une scène que je n'avais pour ma part jamais vue auparavant. C'est un véritable désastre, c'est une tragédie.
Tragédie économique avec le port de Beyrouth, le poumon du pays dévasté. Tragédie humaine dans les quartiers avoisinants, eux aussi ravagés. À Gémaïzé, Florence Parly passe sous les immeubles éventrés, entre les carcasses de voitures écrasées et des habitants qui ont tout perdu. On n'a plus de maison, ne donnez pas d'argent à l'État, ils le volent, c'est à nous qu'il faut le donner, interpelle une mère de famille. Réponse quelques minutes plus tard de la ministre des Armées.
Cette aide doit pouvoir bénéficier à la population libanaise. C'est notre seul objectif et c'est un objectif qui est tout à fait partagé. S'assurer que cette aide parvienne bien à ceux auxquels elle est destinée.
Un message déjà martelé par Emmanuel Macron la semaine dernière et que Florence Parly répétera encore demain au président libanais qu'elle doit rencontrer avant de se rendre sur le porte-hélicoptère Tonnerre attendu cette nuit à Beyrouth avec 750 militaires français et des centaines de tonnes d'aide médicale et alimentaire à son bord. Beyrouth, Aurélien Colli, France Inter.
Des agents de la police scientifique française sont également sur place, vous les entendiez dans le journal de 13h. On apprend que le FBI va également se joindre à l'enquête sur cette catastrophe industrielle qui a fait 171 morts et 6000 blessés, selon un bilan toujours provisoire.
Cela fait deux fois en une semaine qu'un lieu de culte musulman est visé à Lyon.
La nuit dernière, une salle de prière a été endommagée par un début d'incendie d'origine criminelle, selon les premiers éléments. Un ancien élu de Béziers, proche de Robert Ménard est soutenu par le Rassemblement National, a été condamné aujourd'hui à 4 mois de prison avec sursis pour injures racistes. Sur sa page Facebook, Michel Bousquet s'en était pris à la députée de la majorité Laetitia Avia, écrivant des insultes liées à sa couleur de peau. Lagardère avait déjà un genou à terre, voilà qui ne va pas arranger ses affaires. Le géant français de l'édition et des médias fait l'objet d'une opération plus ou moins amicale de la part d'un autre grand nom du capitalisme français, Bolloré, qui rêve de prendre le contrôle en profitant des difficultés financières. Et aujourd'hui, le patron Arnaud Lagardère se voit contraint de publier les comptes de sa holding personnelle, Fabien Cazot.
Du fait des statuts du groupe qui porte son nom, une commandite par action, Arnaud Lagardère est personnellement responsable du passif de son entreprise. C'est dire à quel point le niveau de son endettement personnel a suscité de la curiosité ces dernières années, tant celui-ci peut avoir des conséquences sur sa gestion du groupe, y compris sur sa situation personnelle à la tête de l'entreprise. C'est d'ailleurs le fonds Amber Capital, deuxième actionnaire devenu son ennemi juré, qui a obtenu en justice la publication des comptes de la holding personnel du patron. Cela faisait 7 ans qu'il n'était plus publié et il confirme un endettement élevé, 215 millions d'euros dont 160 d'emprunts bancaires. L'arrivée récente de Bernard Arnault, le patron de LVMH, au capital de la holding d'Arnaud Lagardère devrait permettre d'assainir les comptes, plus sûrement en tout cas que par la vente d'actions du groupe dont le cours en bourse a presque été divisé par 2 depuis 3 ans.
À cette grande femme, la patrie doit être reconnaissante. C'est ce qu'estime une association franco-tunisienne qui demande que les cendres de Gisèle Halimi soient transférées au Panthéon. L'avocate militante des droits des femmes est décédée il y a 15 jours à l'âge de 93 ans. Il n'y a que 5 femmes au Panthéon. La dernière à y être entrée, c'était Simone Veil il y a 2 ans. Les footballeurs parisiens suivront le match depuis leur chambre d'hôtel à Lisbonne. Les Allemands de Leipzig affrontent l'Atlético Madrid ce soir en quart de finale de la Ligue des Champions. L'une des deux équipes sera l'adversaire en demi du PSG, qualifié sur le fil hier soir face à l'Atalanta Bergame. Bonsoir Alexandre
Vaux. Bonsoir Cécile.
Du service des sports de France Inter. Alors si on est chauvin, qui on aimerait voir éliminer ce soir?
L'Atlético Madrid, Cécile. On va se mouiller parce que, alors c'est assez particulier. Ils ont dû faire face à 2 cas de joueurs positifs au Covid ces derniers jours. Ça a été un petit peu tumultueux dans leur entourage, ils ont été écartés. Ça reste surtout l'équipe la plus rugueuse, la plus expérimentée. On parle beaucoup du Real Madrid en Espagne quand on parle de foot, mais son voisin est aussi un grand d'Europe. 5 quarts de finale de Ligue des Champions ces 7 dernières saisons. Les Colchoneros, comme on les appelle en Espagne, à cause des couleurs blanches et rouges du maillot, ont terminé ce championnat qui a repris en Espagne, un post-confinement invaincu, alors que ces Allemands de l'Est qui vont jouer contre eux ce soir découvrent cette compétition et surtout les quarts de finale de la Ligue des Champions. Eux qui, il y a 7 ans, jouent encore en 3e division allemande. C'est un club qui a rapidement progressé et qui, malheureusement pour eux, est désormais orphelin de leur super buteur Timo Werner qui, lui, a profité du confinement pour se faire transférer à Chelsea en Angleterre. Ce qui fait que le RBC Leipzig va être peut-être plus facile à manier ce soir, moins expérimenté, on l'a dit, mais attention, vous parliez d'Atalanta Bergame face au PSG. On disait aussi que ça serait plus facile face aux Italiens hier. On a vu que ça a été un petit peu plus compliqué.
Merci Alexandre Vaux. Leipzig, Atlético Madrid ce soir à 21h à Lisbonne. Le PSG joue sa demi-finale mardi prochain et Lyon entre dans la compétition samedi. L'US Open de tennis, ce sera sans Nadal mais avec Djoko. Le numéro 1 mondial Novak Djokovic a confirmé aujourd'hui sa participation au tournoi américain pendant la première quinzaine de septembre. Raphaël Nadal, lui, a préféré renoncer en raison de la situation sanitaire.
C'était donc le journal de Cécile Bideau. Le temps avec vous. Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Les conditions seront instables sur le nord et le nord-est cette nuit et demain aussi.
Oui, les averses qui concernent actuellement le nord-ouest et le centre-est vont progressivement se décaler plus au nord. Cette nuit et demain, il faudra donc composer avec de nombreux passages nuageux porteurs d'averses entre les côtes normandes, les Hauts-de-France, la région parisienne jusqu'à l'Alsace et au Jura. La matinée sera aussi nuageuse demain entre la Bretagne, les Charentes, le centre-Val de Loire et Auvergne-Rhône-Alpes. Quelques averses résiduelles très localisées pourront même se produire, mais le ciel va progressivement se dégager et les éclaircies seront belles l'après-midi. Dans le sud-ouest, les éclaircies seront nettes dès le matin et les nuages se feront encore plus discrets après la mi-journée pour un après-midi ensoleillé. Le soleil qui sera d'ailleurs présent dès le matin sur les régions méditerranéennes.
Et demain, retour à des températures de saison.
Oui, demain les maximales seront proches des normales, voire légèrement au-dessus, mais on sera quand même loin des excès de ces derniers jours. Prévoyez 21 à 29 degrés en général, avec 25 degrés à Paris, Poitiers et à Vannes, 28 degrés pour Strasbourg et Dax, et 29 degrés à Lyon. L'ambiance sera quand même encore chaude autour de la Méditerranée, mais c'est plus habituel en cette saison. 31 degrés à Ajaccio, 33 degrés à Nîmes, et on ira jusqu'à 36 degrés du côté de Draguignan.